Rebonjour et nous voici pour la deuxième partie dans laquelle nous allons traiter ensemble comment surmonter les crises et les disputes du couple. Alors chaque couple vit des temps de crise et de conflit et ces temps sont souvent perçus comme étant très négatifs et se terminent principalement par un divorce. Le divorce est trop souvent utilisé comme l'unique solution à ce problème. Cependant, sauf cas extrêmes de violence, de mise en danger, d'abus, etc., où là le divorce est la solution, il y a avant d'arriver, pour d'autres cas, d'en arriver là, à des étapes de réconciliation à ne pas négliger. Et cela touche aussi bien les couples non chrétiens que les couples très chrétiens. On a souvent une idée idyllique d'un couple chrétien que l'on pense à l'abri de crises, à l'abri de disputes. On pense que le couple chrétien est toujours entre guillemets parfait, mais il n'est pas non plus à l'abri de l'inévitable. Et les crises et les conflits font partie du couple chrétien ou non. Mais c'est dans sa manière de laisser le temps et dans sa manière de gérer ces conflits que le chrétien peut se démarquer. Dans la vie d'un couple, la première crise qu'il doit faire face s'appelle celle de la désillusion. Elle apparaît généralement autour des 3-5 ans, peut être retardée souvent par des projets, par des enfants, par des maisons, des projets qui s'enchaînent et qui viennent finalement surmener la vie de couple. Et beaucoup se réfugient d'ailleurs dans des projets de sortie avec les autres pour éviter de se retrouver seul et finalement d'éviter de traiter les problèmes de fond, ce qui décale la crise de désillusion, mais qui est inévitable et qui apparaîtra un jour ou l'autre. On appelle cette crise comme désillusion le moment où l'amour change. La passion des débuts qui nous faisait tout accepter, tous les défauts de l'être aimé, n'est plus. La chimie semble être disparue, les conversations se tarissent, les rapports sexuels ont diminué. Et c'est un peu le jour où l'on découvre la personne sur ce qu'elle est réellement. On la découvre telle qu'elle est et on se dit c'est elle qui partagera notre vie. L'idéalisation des premières années a disparu. Et il n'est plus le prince charmant que j'avais choisi, ou même la princesse que j'avais choisie. Nous commençons à dire et à exiger ce que nous attendons du couple. C'est la phase dans laquelle où on essaye de s'affirmer dans le couple et de porter le couple dans une direction. Et on se rend compte que l'autre ne partage pas les mêmes points de vue, n'a pas les mêmes opinions, n'a pas la même vision, ni les mêmes réactions, que ce soit sur l'argent, sur les loisirs, sur les tâches ménagères, sur les priorités, sur les amis. Son sens des priorités n'est pas le même que le mien et on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à s'entendre. La phase de l'amour-passion se transforme à ce moment et doit se transformer en amour plus authentique, plus vrai. Et c'est cette transition qui est déterminante pour le couple. Parce que si le couple arrive à dépasser cette crise, son amour sera plus fort, plus solide, il sera vrai, mais il aura pris en maturité. Alors ça ne signifie pas qu'il n'y a plus d'amour, mais c'est un amour qui est plus mature et qui peut durer dans le temps. Le couple ne peut pas survivre s'il n'y a que la passion, car la passion, on le sait, est fugace. Alors, pour cela, il faut que, pour surmonter cette première crise de la désillusion, il faut que le couple passe par l'acceptation de l'autre tel qu'il est réellement. Malgré certaines déceptions, il accepte les imperfections de son partenaire parce qu'ils savent qu'eux-mêmes ne sont pas parfaits. Et c'est là que le monde chrétien, le milieu chrétien peut rentrer, la foi peut rentrer en jeu, puisqu'on peut calquer l'effet de la repentance sur le couple, dans lequel on reconnaît nos fautes, on reconnaît que on a blessé notre partenaire, on demande pardon et on change. Chercher à rendre son partenaire à notre image, c'est ce qu'il ne faut pas faire finalement, parce que ce sera toujours une source de blessure et le couple ne pourra jamais avancer. La clé pour surmonter la crise de désillusion sera la communication, l'écoute. Fuir, divorcer, se taire, enterrer cette désillusion ne fera jamais grandir le couple, mais ni même notre façon d'aimer. L'amour doit changer, l'amour doit se fortifier, l'amour doit durer dans le temps et pour cela, il faut qu'il soit vrai, authentique et il doit passer ce cap de l'amour-passion qui était aveugle. Cette première crise est importante, elle est bénéfique pour le couple car il permet de rencontrer réellement l'autre, d'affirmer ses besoins, ses attentes, d'avancer ensemble dans l'admiration, la confiance et le respect. Les crises sont là pour réajuster le chemin à prendre, sont là pour réorienter, on va dire, le couple dans un même sens. Mais pour cela, il faut communiquer et il faut faire preuve aussi de changement. Malheureusement, beaucoup de couples se refusent de faire cet effort et finissent donc par divorcer. Et ne passeront jamais le cap des 3-5 ans, le cap de la passion. Une seconde crise qui est tout aussi importante est celle de l'arrivée du premier enfant. Un enfant révolutionne le couple parce que jusqu'à présent, il ne formait qu'un. Et l'arrivée d'un enfant, maintenant, ils sont trois. L'arrivée d'un enfant constitue une source de stress importante par la grossesse, par l'accouchement, par l'installation, la préparation de l'enfant. Et finalement, cette crise dépendra de comment le couple gère et prépare l'accueil. Il faut préparer l'accueil pas simplement de façon matérielle, mais aussi s'attendre à différents changements. D'abord, la transformation physique, l'émotivité, la psychologie de la femme qui pèse lourdement sur l'intimité du couple. L'homme doit grandir, il doit devenir un peu plus mature, il doit passer la phase de l'adolescence. Alors c'est une phase qui est souvent chez l'homme et dure longtemps, et il doit être un peu plus mature psychologiquement et prendre et avoir conscience des responsabilités qu'implique avoir un enfant. Beaucoup d'hommes n'y parviennent pas, beaucoup d'hommes n'y arrivent pas et ne prennent pas conscience que devenir père, mère est très difficile. Beaucoup de couples se perdent dans l'arrivée d'un enfant. Et certains couples même s'oublient. Les crises surviennent lorsque, finalement, la préparation, le changement ne se fait pas. La mère, voyant souvent que l'époux ne prend pas conscience, ni ne prend pas ses responsabilités, s'investit seule dans l'accueil de cet enfant et met de côté le père qui ne remplit pas sa part de responsabilité paternelle. Elle se sent alors seule dans cette aventure, s'investit davantage, renonce à sa carrière et n'a plus de force et n'a pas de force pour la confrontation. L'enfant devient le centre de la vie de la femme et l'homme, lui, se perd dans le travail. Cela crée un sentiment d'abandon, plus personne ne se comprend. Et le couple, finalement, s'éloigne l'un de l'autre. La femme remettra en question l'utilité du mari. Elle se dit qu'elle peut gérer seule et qu'elle n'a pas besoin de lui, qu'elle gagne son propre argent, qu'elle y arrive jusqu'à présent, même et qui lui est plutôt un autre enfant parfois qu'elle doit gérer en plus. Et donc la femme préférera divorcer. L'éducation de l'enfant peut être aussi une source de disputes, chacun étant différent, chacun ayant aussi une éducation personnelle différente. Et finalement, l'éducation, encore une fois, peut être une source de disputes aussi pour les parents. Il y a aussi un phénomène aussi qui arrive chez l'homme, c'est le phénomène de la perte de son amour. Lorsque l'enfant arrive, l'homme, entre guillemets, doit partager sa femme et il perd son amour. Et certains psychologues pensent que cette jalousie, entre guillemets, inconsciente que l'homme a envers l'enfant peut être source aussi de désinvestissement paternel et peut être source, entre guillemets, d'abandon, d'amour, d'abandon, entre guillemets, de responsabilité, en se disant je laisse ma femme et l'enfant. Alors, comment surmonter cette crise de l'arrivée d'un enfant ? Encore une fois, c'est par l'acceptation. L'acceptation du changement, l'acceptation de grandir, l'acceptation de devenir plus mature, l'acceptation de l'autre dans ses faiblesses, dans ses incompréhensions, dans ses forces, l'acceptation de nos propres faiblesses, de nos propres lacunes. Et le couple, finalement, s'ils acceptent cela, s'ils en parlent aussi, deviendront une équipe. Et une équipe qui pourront se compléter dans ses forces, mais aussi dans ses faiblesses. Alors, c'est facile à dire, mais ça demande beaucoup de communication, beaucoup parfois de ronger son frein, entre guillemets. Mais ce n'est pas impossible. Le couple doit apprendre maintenant à être des parents, c'est-à-dire à prendre soin de leurs enfants, à prendre soin aussi de leur couple. Donc l'homme doit prendre ses responsabilités en main, la femme doit aussi laisser sa place aussi à l'homme, de pouvoir aussi créer du lien et remplir en tout cas ses responsabilités. Dans tous les cas, le couple pour l'accueil d'un enfant doit être stable, stable émotionnellement, stable aussi dans leur communication, parce que s'ils ne le sont pas, l'arrivée d'un enfant entraînera davantage, en tout cas, de séparation, davantage de disputes et davantage d'éloignement. Un enfant n'est donc pas un pansement, ce n'est pas non plus un moyen de réparer ou de souder le couple, ce n'est pas non plus un moyen de cacher et d'enterrer ce qu'il se passe et de passer à autre chose. Non, lorsqu'un couple va mal, il faut en parler. Moi, je regrette très souvent que lorsqu'on vient me voir dans ma qualité de pasteur ou pour accompagner des couples, que ça soit déjà trop tard. Un couple qui va bien, c'est là où il faut parler des sujets. Un couple qui va bien, un couple heureux, c'est un couple qui sait parler et qui sait s'entendre et s'écouter. Alors, dans un prochain podcast, nous pourrons discuter un petit peu d'autres crises qu'un couple peut vivre, mais aussi des conflits fréquents qu'ils doivent faire face. Comment bien se disputer, comment bien communiquer aussi, c'est un petit peu toute la base qu'un couple doit apprendre. Voilà, j'espère que ce podcast vous plaira aussi et nous pourrons en rediscuter le 28 mars au partage biblique. Passez une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.